Chapitre 19. Danger. Nous voici de nouveau dans la coquette petite salle à manger, où le soleil du matin fait briller la haute cafetière d'argent et le râtelier nickelé qui porte les rôtis. Tout est comme hier, même les assiettes que Jemima a oublié encore de faire chauffer. Maud, dont la lumière dore les boucles en se jouant sur leurs bords, a remonté sur ses épaules les deux petites brides du rouge le plus charmant. Elle est assise, silencieuse, et, de temps à autre, jette à son mari des regards interrogateurs. Il avait déjeuné d'un air mélancolique, car il était mal à l'aise. Il se livrait en lui une lutte, sa conscience le tirait dans un sens et ses instincts dans un autre. Les instincts sont toujours une cohorte conservatrice, vieillie sous le harnais, tandis que la conscience est née d'aujourd'hui, en sorte qu'on peut d'ordinaire prophétiser laquelle des deux choses l'emportera sur l'autre. La question qu'il se posait était de savoir s'il parlerait à Maud de Violette Wright. Si celle-ci devait exécuter sa menace, il était bien préférable de préparer sa femme. Mais, après tout, il était possible que les arguments de la veille l'eussent touché quand le premier emportement de la colère serait passé. Pourquoi faire la moitié du chemin au-devant du danger? S'il était en marche, rien de ce que Frank pourrait dire ne le détournerait. S'il ne venait pas, rien ne l'obligeait à parler. La conscience lui disait qu'il valait mieux se montrer loyal avec sa femme. L'instinct lui disait qu'elle serait peut-être douce et pitoyable en cette circonstance, mais que l'aveu aigrirait son âme et empoisonnerait ses pensées. Et peut-être, cette fois entre toutes, l'instinct voyait-il plus clair que la conscience. « Vous, jeune femme, ne faites pas trop de questions. Vous, jeune mari, ne prodiguez pas vos confidences. Il est des choses qui peuvent se pardonner, mais qu'on n'oublie jamais, jamais. Ce qu'il y a de plus noble sur terre, le cœur d'une épouse aimante, est chose trop tendre, trop sacrée, pour subir le rude choc d'une confidence étourdie. Vous êtes à elle, elle est à vous. L'amour dépend de vous deux. Il est préférable de laisser le passé tranquille. S'il est des couples qui se vantent de n'avoir pas de secret et que parfois ils soient heureux, c'est parce qu'ils se vantent d'une chose qui n'est pas vraie. « Vous ne rentrerez pas trop tard aujourd'hui, Frank, » dit enfin Maud en guignant de l'autre côté de la haute cafetière. « Non, ma chérie, non. » « C'est que vous étiez en retard hier, vous savez ?»«
Oui, oui, je sais. »«
Vous a-t-on retenu au bureau ?»«
Non, j'ai pris le thé avec une connaissance. »«
Chez elle ?»«
Non, non, dans un restaurant. »«
Où Jemima a-t-elle mis mes bottines ? Je me demande si elle les a nettoyées. On ne le dirait pas à les voir. »«
Les voici. »«
Et mon pardessus ? Faut-il vous rapporter quelque chose de Londres ?»
« Alors, bonjour, ma chérie, bonjour. »
Maud ne l'avait jamais vu aussi pressé de partir.
C'est toujours un mystère pour un homme de la cité que de savoir ce que sa femme fait dans ses 7 heures quotidiennes de solitude pendant que le quartier Est-Centre le retient. Elle ne peut le lui expliquer car elle se l'explique à peine à elle-même. Ce temps se dépense en 1000 mêmes besognes, dont chacune est triviale en soi, mais dont le total constitue la différence entre un ménage bien tenu et un ménage négligé. Sous la direction illustre de l'omnisciente Mistress Beaton, il y a le train-train ordinaire à accomplir. Il faut surveiller la cuisinière, examiner le garde-manger, donner adroitement au reste des formes nouvelles et appétissantes, ordonner le dîner, pour le lunch, on prend n'importe quoi, tenir les approvisionnements au complet. Le mari accepte l'excellent petit dîner, la sole frite, le riz de veau en caisse, le pudding au citron, comme si tout cela avait poussé de soi-même sur la nappe. Il ne sait rien de l'attention, du jugement, de la prévoyance qui accompagne chaque changement de saison, qui jamais ne se ralentisse, jamais ne se trompe. Il se régale des fruits et ne veut rien savoir du travail qui les a produits. Et pourtant, la besogne marche avec entrain sans qu'on se plaigne jamais. Puis, lorsqu'enfin tout est prêt pour le dîner, ce point culminant de la journée anglaise, Maud a des tas de choses à faire, fût-ce le chiffon blanc à découdre du col de cette robe pour le remplacer par le rouge. Au tilleul, il y a toujours en train quelques besognes de couturière non professionnelle. Ce Franck est devenu plus attentif dans ses caresses depuis un soir où il s'est aperçu que sa femme avait entre les lèvres une rangée d'épingles découverte qui n'a rien d'agréable quand on l'a fait avec ses propres lèvres. Puis il faut mettre de l'ordre dans les tiroirs, nettoyer l'argenterie, laver les feuilles du ficus, refriser devant le feu la plume qui a été mouillée. Et, avant le lunch, on a tout juste le temps de jeter un coup d'œil sur les deux dernières pages du roman nouveau pour voir le dénouement. Puis c'est le lunch en 3 minutes de la femme seule. Voilà pour les affaires. Ensuite, ce sont les devoirs sociaux qui vous donnent encore plus de mal. On note la robe cramoisie pour une coquette toilette de sortie, drap français gris avec devant de lisse blanche et veste grise à la zouave. Les visites aux étrangers sont de moitié moins ennuyeuses quand vous êtes satisfaite de votre toilette et même les réceptions sont plus faciles quand votre costumière habite Regent Street. Le mardi, Maud reste chez elle. Chaque autre jour de la semaine, elle cherche parmi les cartes entassées sur le plateau. Elle est accablée par le sentiment d'avoir manqué de politesse envers ses voisins. Mais sa tâche n'en finit jamais, bien que chaque jour, elle rentre n'en pouvant plus à force de se donner du mal. Des inconnus viennent encore lui rendre visite. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce que pour souhaiter la bienvenue, etc. Et il faut leur rendre leur visite. Et pendant qu'elle leur rend visite, d'autres cartes s'accumulent sur la table de son vestibule, et ainsi, la sotte et fatigante convention continue à prendre le temps et les forces de la victime. Ses premières réceptions étaient vraiment fort embarrassantes. Jemima annonçait un nom qui pouvait avoir quelque rapport à la visiteuse ou n'en avoir aucun. La dame entrait. Elle s'appelait par exemple Mrs. Baker. Maud n'avait aucun moyen de savoir ce que pouvait être Mrs. Baker. La visiteuse condescendait rarement à une explication. 10 minutes de conversation à bâtons rompus et de gêne au sujet des bois de pin, du golf, de la crémation. Une tasse de thé et le départ. Puis Maud courait au plateau chargé de cartes et se rendait compte alors à qui elle venait de parler et de quoi il s'agissait. Ce jour-là, Maud comptait ne pas faire de visite et elle avait espéré n'en point recevoir. Les heures critiques étaient presque passées et il était près de 4 heures quand la sonnette fut tirée d'une main ferme. « Mrs. White !» annonça Jemima en ouvrant la porte du salon. « Wright !» dit la visiteuse en entrant. « Mrs. Violette Wright !» Maud se leva en souriant de son air charmant. C'était un sourire particulièrement attrayant, amical, car il était inspiré par un joli désir féminin de rendre toutes choses agréables à ceux qui l'entouraient. Chez elle, l'amabilité n'avait jamais rien de contraint, car elle avait les véritables instincts de la grande dame, ces instincts dont on parle si souvent, qu'on voit si rarement. De même que le gentleman, de même que le chrétien, de même que tout notre idéal, ce qu'on en rencontre réellement n'est qu'une piteuse approximation. Mais la visiteuse ne répondit point à ce joli geste de bon accueil et sa belle figure ne rendit point ce sourire sympathique. Elles restèrent un instant à se regarder l'une l'autre. La première, grande, imposante, mûre, la seconde douce, à l'air de fillette, défiante d'elle-même, mais l'une et l'autre belle et attrayante, chacune à sa façon. Heureux maître Franck, pour qui le passé et le présent avaient pu prendre une telle forme. Il eût été plus heureux encore s'il avait pu fermer la porte sur le passé quand le présent fit son entrée. La visiteuse se taisait, mais ses yeux noirs se posaient avec un air critique et une certaine fixité sur sa rivale. Maud, mettant ce silence sur le compte de l'embarras que cause une première visite, fit un effort pour détendre la situation.
« Je vous en prie, prenez ce fauteuil. Sans doute, vous avez fait une course fatigante. Il fait encore très chaud l'après-midi. Je trouve que vous êtes bien bonne d'être venue. » Un léger sourire voltigea sur la figure sombre.
« Bien bonne d'être venue, » dit-elle.
« Oui, car dans un petit trou à ses débuts, comme Wooking, où tant de personnes viennent s'établir, ce doit être une tâche fort malaisée pour les anciens habitants de leur souhaiter la bienvenue. J'ai été bien surprise du bon accueil qu'on m'a fait partout. »
« Ah, je vois, » dit sa visiteuse, « vous croyez que j'habite ici. En réalité, j'arrive à l'instant même de Londres. »«
Vraiment ?» dit Maud. Et elle attendit une explication, mais l'explication ne venant pas, elle ajouta « Vous trouverez que Woking est une résidence charmante. »«
Un endroit charmant pour y être enterré, mort ou vif, » dit sa visiteuse.
Il y avait je ne sais quoi de singulièrement hargneux dans ce ton et ses façons. Il semblait à Maud qu'elle ne s'était jamais trouvée en tête à tête avec une aussi singulière personne. C'était tout d'abord sa beauté frappante et pourtant sinistre et voluptueuse. Puis l'air d'abandon absolu de ses façons, la tranquille certitude d'être affranchie des conventions ordinaires de la vie. C'était là des manières que l'on ne rencontre que dans la société anglaise, parmi les personnes qui appartiennent aux rangs les plus élevés du grand monde et parmi celles qui occupent les plus hauts sommets du demi-monde. C'était une chose nouvelle pour Maud. Ce ton la mettait mal à l'aise et il s'y mêlait je ne sais quoi qui lui faisait sentir, pour la première fois de sa vie, qu'elle s'était attirée l'hostilité d'une autre créature humaine. Cela la glaçait, la faisait souffrir. La visiteuse ne faisait aucun effort pour entretenir la conversation. Elle se redressait dans son fauteuil et dévisageait son hôtesse du regard le plus critique, le plus fouilleur. Ses deux yeux noirs si interrogateurs parcouraient Maud avec intensité, depuis ses boucles brunes jusqu'aux petites pointes brillantes de ses souliers qui dépassaient le bord de la jupe grise. Il s'arrêtait surtout à la figure qu'il sondait, à laquelle il revenait. Jamais Maud n'avait subi un examen aussi minutieux et son instinct lui disait que cet examen n'était point une manifestation de bienveillance. Après avoir inspecté sa rivale, Violette Wright se mit à passer en revue, avec la même froideur, la même attention, ceux qui l'entouraient. Elle promena d'un air délibéré ses regards sur l'ameublement de la pièce et reconstruisit mentalement la vie de ceux qui en étaient les maîtres. Maud hasarda une ou deux remarques banales, mais sa visiteuse n'était pas femme à se laisser détourner sur le terrain du temps qu'il faisait ou de la lenteur des trains de la compagnie du Sud-Ouest. Elle continuait son inspection tranquillement, en silence. Tout à coup, elle se leva et traversa la pièce du côté de la table qui se trouvait contre le mur. Il s'y trouvait une photographie représentant Frank dans son costume de volontaire.
« C'est votre mari, Miss Riscross ?»«
Oui, vous le connaissez ?»«
Un peu, nous avons des amis communs. »
Et pendant qu'elle parlait, un sourire ambigu se jouait sur ses lèvres.
« Elle a dû être faite après que je l'ai vue. »
« Elle a été faite aussitôt après notre mariage. »«
C'est bien cela, il a l'air d'un bon petit mari. La photographie le flatte. »
« Ah, vous trouvez ?» dit Maud avec froideur. « Mon impression à moi, c'est qu'elle ne le fait pas valoir. »
La visiteuse se mit à rire.
« Naturellement, c'est votre impression à vous. Ce doit l'être, » dit-elle. La douceur d'âme de Maud commençait à se tourner en colère.
« C'est la vérité !» s'écria-t-elle.
« Il est fort juste que vous le pensiez ainsi, » répondit l'autre avec le même rire irritant.
« Il faut que vous l'ayez connue bien superficiellement si vous ne pouvez pas voir que c'est la vérité. »«
Alors, il faut que je l'ai connue bien superficiellement. »
Maud était vraiment fort en colère. Elle apercevait en sa propre nature des aspects dont elle n'avait jusqu'alors soupçonné l'existence. Elle tapait de son petit pied sur le parquet. Elle restait immobile, la figure pâle, les lèvres serrées, les yeux brillants.
Elle se préparait à se montrer fort impolie envers la femme excentrique qui se permettait, avec tant de sang-gêne, de critiquer son Franck. Sa visiteuse l'observait et avait une expression différente. La colère visible de Maud semblait l'amuser, l'intéresser. Elle n'avait plus dans le regard cette froideur de critique qui avait fait place à une approbation intelligente. Soudain, elle mit la main sur l'épaule de Maud en un geste à la fois si naturel et si impérieux que Maud n'eut pas la force de s'en offenser. « Il a bien de la chance d'avoir un aussi ardent petit champion, » dit-elle. Sa force de caractère et sa plus grande connaissance du monde lui donnaient sur la femme-enfant l'ascendant que l'âge exerce sur la jeunesse. Il n'y avait pas 10 ans de différence entre elles, et cependant, Maud sentait que, pour une certaine raison, la conversation ne pouvait se poursuivre sur un pied de parfaite égalité. La tranquille assurance de sa visiteuse, quelle qu'en fût la cause, faisait qu'il était bien difficile de se fâcher ou de protester. En outre, il y avait ses 2 yeux, pleins de bienveillance et aussi de perspicacité, qui se fixaient maintenant sur les siens. « Alors, vous l'aimez beaucoup ?»«
Naturellement, je l'aime. C'est mon mari. » »«
La conclusion ne s'impose pas toujours. »«
Vous êtes mariée aussi. Est-ce que vous n'aimez pas votre mari ?»«
Oh, ne vous inquiétez pas du mien. Lui, c'est son affaire. En avez-vous jamais aimé un autre ?»«
Non, pas vraiment. »
Maud fut étonnée d'elle-même, et pourtant la question était faite avec tant de franchise que la franche réponse suivit spontanément. Elle était charmée de fondre cette glace de malveillance et de sentir que, pour quelque cause, son étrange visiteuse avait pour elle plus de sympathie.
« Heureuse petite, vous avez donc épousé le seul homme que vous ayez aimé dans votre vie ?»
Maud sourit en affirmant d'un signe de tête.
« Quelle chose superbe que de faire cela! Je croyais que cela n'arrivait que dans les romans. Comme vous devez être heureuse !»«
Je le suis, très, très heureuse !»«
Eh bien, je me permets de dire que vous le méritez. En outre, vous êtes réellement fort jolie. Si jamais vous avez eu une rivale, je crois que ce serait pour elle une consolation de savoir que c'est une personne aussi charmante qui lui a coupé l'herbe sous le pied. »
Cette idée fit rire Maud.
Je n'ai jamais eu de rivale, dit-elle. Mon mari n'a jamais éprouvé de véritable amour jusqu'au jour où il m'a connue.
Vraiment, vous dites ?
Oh oui, c'est bien ainsi. Comme c'est gentil pour vous de débuter par une feuille blanche. Je vous trouvais fort belle il n'y a qu'un instant quand vous étiez en colère contre moi, mais vous êtes tout à fait exquise avec cette légère rougeur aux joues. « Si j'avais été un homme, votre mari, en vous faisant la cour, aurait certainement eu un rival. Ainsi donc, il n'a eu de véritable amour que pour vous. Je croyais que cela aussi ne se voyait que dans les romans. »
Il y avait dans cette dernière phrase un accent dur et ironique qui froissait Maud dans sa sensibilité. Elle leva aussitôt les yeux et fut surprise de voir l'expression de souffrance qui remplissait les traits de sa visiteuse, mais qui s'effaça pour faire place à un air sérieux, serein.
« Cela vous sied à merveille, » dit-elle, « mais j'aimerais à vous donner un petit conseil si vous permettez cette liberté. Ne soyez pas égoïste dans votre vie conjugale. »«
Égoïste ? » ?»«
Oui, il y a une sorte d'égoïsme familial à tous égards aussi mauvais, je me demande même s'il n'est pas pire, que l'égoïsme individuel. » On s'aime mutuellement, on tient le monde à l'écart, on ne pense à personne d'autre, et l'univers entier marcherait à la destruction qu'on ne s'en apercevrait pas si cela ne troublait pas cet amour. Voilà ce que j'appelle de l'égoïsme en famille. C'est un péché, c'est une honte. »
Maud, tout ébahie, contempla cette étrange femme qui parlait d'une voix rapide, échauffée, comme si elle avait longtemps tenu en prison d'amères pensées, faute d'un auditoire capable de les entendre. Rappelez-vous les femmes qui ont été moins fortunées que vous. Rappelez-vous qu'il en est des milliers qui souffrent et meurent faute d'amour et que l'amour ne vient jamais de leur côté. Des femmes dont les cœurs languissent et soupirent après ce que la nature leur doit
une dette qu'elle refuse de payer. Songez aux femmes laides, songez aux femmes solitaires. Et par-dessus tout, rappelez-vous vos sœurs malheureuses, celles, plus femmes que toute autre, qui ont été les victimes de leur bonté, de leur confiance, de leur faiblesse aimante. C'est cet égoïsme en famille qui change chaque maison de ce pays en une forteresse qu'il faut défendre contre ces créatures errantes. Cela les rend mauvaises et dès lors, elles condamnent le mal même qu'elles ont fait. « Quand je me rappelle !» Elle s'arrêta brusquement en sanglotant. Elle posa son avant-bras sur la cheminée et son front sur son avant-bras. Aussitôt, Maud fut près d'elle, les larmes roulant sur ses joues, car la vue de la souffrance lui était toujours une souffrance, et elle avait les nerfs révolutionnés par cette singulière entrevue. « Chère Mrs. Wright, ne pleurez pas, » dit-elle à demi-voix, en caressant de sa petite main blanche, d'un geste apaisant, indécis, la masse épaisse de la chevelure d'une riche nuance châtain. « Ne pleurez pas, vous avez souffert, je le crains. Oh, comme je voudrais pouvoir faire quelque chose pour vous. Dites-moi, pourrais-je faire quelque chose ?» Mais les crises de faiblesse qui prenaient parfois Violette Wright n'étaient jamais de bien longue durée. D'un mouvement impatient, elle passa sa main sur ses yeux, redressa sa haute taille et rit en se regardant dans le miroir. Madame Célandine serait surprise si elle venait à voir comment j'ai traité un de ses chefs-d'œuvre. Et en disant ces mots, elle remit en place son chapeau froissé et réarrangea sa chevelure au moyen de ces petites tapes vivement données avec le plat de la main, grâce auxquelles les femmes font tant de choses en si peu de temps. Une toilette froissée met en mouvement toutes les mains féminines qui se trouvent à portée. Maud collabora donc à ses coups de main, à la réfection des boucles, et eut bientôt oublié ses larmes. « Bon, voilà qui va bien, » dit enfin Violette. « Je suis désolée de m'être conduite si sottement. En général, ce n'est pas dans le genre sentimental que je me compromets. Je crois que voici bientôt l'heure de songer à mon train. J'ai un rendez-vous au théâtre que je ne dois pas manquer. » « Comme c'est étrange !» dit Maud en regardant à son tour dans le miroir sa jolie figure mouillée de larmes. « Vous n'êtes ici que depuis quelques minutes à peine, à en croire à la pendule, et pourtant je sens qu'en certains points, je suis plus intimement en rapport avec vous qu'avec aucune autre femme. Comment cela se fait-il? Quel est le lien qui nous attire ainsi l'une vers l'autre? C'est d'autant plus extraordinaire que vous m'en vouliez quand vous êtes entrée, je m'en suis bien aperçue, et vous ne vous offenserez pas si je vous dis que, quand vous étiez ici depuis un instant, j'ai cru éprouver de l'antipathie pour vous. Mais je n'en éprouve point, au contraire, je souhaite que vous veniez tous les jours, et je compte aller aussi vous voir quand j'irai à Londres. » Maud n'était point d'une nature débordante, d'ordinaire, et ce long discours lui causa un grand étonnement quand elle se le rappela. Mais sur le moment, il lui partit du cœur, d'une façon si naturelle qu'elle ne songea point à le trouver étrange. Mais son enthousiasme fut quelque peu refroidi par l'accueil fait à ses avances. L'expression des yeux de Violette Wright était toujours amicale, mais elle hocha la tête. « Non, je suppose que nous ne devons plus nous rencontrer. Je ne crois pas devoir vous prier de me rendre visite à Londres. Je tenais à vous voir, je vous ai vu, mais il faut m'en tenir là, je le crains. » Les lèvres de Maud tremblaient comme si elle était froissée. « Alors, pourquoi teniez-vous à me voir ? » demanda-t-elle. « Parce que je connaissais un peu votre mari. J'ai jugé intéressant de voir quelle sorte de femme il avait choisie. » « Vous n'êtes pas désappointé, j'espère, » dit Maud d'un air mutin. « Il a très bien choisi, beaucoup mieux que je ne m'y attendais. »« Vous ne faites pas beaucoup de cas de son goût, alors ?»« Oh si, j'ai toujours eu de son goût une opinion très haute. »« Vous avez une si jolie façon de présenter les choses. Vous connaissez mon mari très superficiellement, mais enfin, je vois bien que vous connaissez à fond le monde. » Je me demande si je suis vraiment la meilleure sorte de femme qu'il aurait pu épouser. Le pensez-vous, Mrs. Wright ?
La visiteuse considéra un instant en silence la grâce douce et le charme si joliment sympathique de la femme qu'elle avait devant elle. « Oui, dit-elle avec lenteur, en personne qui pèse ses mots. Je crois que vous l'êtes. Vous êtes une dame et vous possédez l'âme d'une grande dame. Une femme peut entraîner un homme bien bas, ou bien elle peut le faire vivre dans la région la plus haute où il soit capable de vivre. Ne soyez pas molle avec lui. Ne cédez pas quand vous sentez que votre route monte vers les cimes. Tirez-le en haut. Ne vous laissez pas entraîner en bas par lui. Alors, le respect qu'il aura pour vous accroîtra l'amour qu'il a pour vous, et ces deux choses sont bien plus grandes ensemble que séparément. Votre instinct vous porterait à agir ainsi. C'est pourquoi vous êtes le meilleur type de femme qu'il y ait pour lui. » Elle exposait son opinion d'un air si réfléchi et en même temps d'un ton si ferme que Maud était toute rayonnante d'orgueil et de plaisir. Il y avait de l'expérience, de l'autorité, dans le langage de cette femme insondable. « Que vous êtes bonne !» s'écria-t-elle. « Je sens que vous dites la vérité. Je sens que c'est là ce qu'une femme devrait être pour son mari. S'il plaît à Dieu, je serai ainsi pour Franck. » « Encore un petit conseil avant que je vous quitte, » dit Violette Wright. « Ne traitez jamais votre mari en conquête faite. N'acceptez jamais ses baisers ou ses caresses comme une chose routinière. Ne vous relâchez jamais des petits soins que vous avez eus dans les premiers jours. Ne laissez pas votre amour perdre de sa fraîcheur, car l'amour s'en va souvent avec elle, alors même que le devoir impose la fidélité au mari. » C'est la faute que commettent le plus fréquemment les gens mariés. Il n'en est pas qui ait fait tant de malheureux. On ne s'en rend compte que quand il est trop tard. Veillez avec un soin constant aux besoins et au bien-être de votre mari. Ce qu'il apprécie, ce n'est pas le confortable lui-même, ce sont les attentions. S'il ne les voit plus et que ce soit un bon garçon, il ne dira rien, mais il ne le remarquera pas moins. « Elle a changé, se dira-t-il. » Et à partir de ce moment, il changera aussi. Tenez-vous sur vos gardes de ce côté-là. En vous conseillant ainsi, je me montre bien exempte d'égoïsme. C'est beaucoup de bonté de votre part et je sens combien tout cela est vrai. Mais pourquoi est-ce absence d'égoïsme? Je voulais dire seulement que je n'avais aucun intérêt là-dedans. Que m'importe à moi que vous conserviez ou non son amour? Et pourtant, je ne sais. » Brusquement, elle entoura Maud de ses bras et la baisa sur la joue. « Vous êtes une bonne petite créature et j'espère que vous serez heureuse. » Frank Ross s'était esquivé de la cohue des gens de la cité qui sortait à flot de la gare de Woking et il parcourait rapidement, dans l'obscurité croissante, la route détestable, creusée d'ornières profondes, qui gagnait les tilleuls par un raccourci. Soudain, le cœur lui défaillit quand il vit une femme de haute taille, de tournure élégante, s'avancer vers lui. Il n'y avait pas deux femmes de cette stature qui eussent une allure pareille. « Violette ?» « Bonjour, Francky. Je pensais que c'était vous, mais avec ses hauts de forme et ses pardessus noirs, tous les hommes se ressemblent. Votre femme sera enchantée de vous voir. »« Violette, vous avez détruit notre bonheur. Comment avez-vous eu le courage de le faire? Ce n'est pas pour moi que je parle, Dieu le sait, mais penser que ses sentiments ont été trompés, sa confiance ainsi ébranlée... » « Ah, bah, Francky, rien ne vous autorise à prendre les choses au tragique. »« N'êtes-vous pas allé chez moi ?»« Oui, j'y suis allé. » »« Et vous l'avez vu ?»« Oui. » »« Eh bien, alors ?»« Je ne vous ai pas vendu, mon cher. J'ai été un modèle de discrétion. Je vous donne ma parole que tout est pour le mieux. Et c'est une bonne petite personne, Francky. Vous ne méritez pas de brosser ces jolies bottines vernies. » « Vous savez bien que vous ne le méritez pas. Et, crébleu, Francky, si vous étiez resté avec moi hier, je ne vous aurais jamais pardonné, jamais. J'abdique en sa faveur, oui, mais pas en faveur d'une autre. Si jamais j'apprends que vous vous conduisez mal, mon cher, ou que vous agissez autrement qu'avec une parfaite loyauté envers cette femme confiante, je vous ferai maudire le jour où vous m'avez connu,
je le ferai, oui, par la vie de Gingo. »
Faites, Violette, je vous le permets. »
Très bien, moins on en dira, mieux cela vaudra. Donnez-moi un baiser avant que nous nous quittions. »
Elle leva sa voilette et il lui donna un baiser. Il avait à son par-dessus une fleur flétrie, elle la lui prit.
« C'est un souvenir de notre amitié, Francky, et c'en est aussi un bon emblème. Adieu, » dit-elle en descendant la mauvaise route qui conduisait à la gare. Un jeune joueur de golf qui monta à Byfleet fut surpris de voir une belle femme qui pleurait amèrement dans le coin de la voiture de seconde classe. « Elle vient de voir griller quelqu'un à ce maudit four crématoire, » se dit-il pour s'expliquer la présence de cette personne. Maud donna à Frank, longuement, avec animation, des détails sur l'étrange visiteuse qu'elle avait reçue.
« C'est bien dommage, mon cher, que vous ne la connaissiez pas mieux, car, vrai, j'aimerais apprendre en détail tout ce qui la concerne. D'abord, je l'ai crue folle. Ensuite, je l'ai trouvée odieuse, et finalement, elle m'a paru la femme la plus sage, la meilleure que j'ai jamais connue. Elle m'a mise en colère, elle m'a fait peur, elle m'a offensée. Puis, elle m'a inspiré de la gratitude, de l'affection, tour à tour. Jamais de ma vie, je n'ai été ainsi dominée par qui que ce soit. Elle est si raisonnable. »
« Si raisonnable, dites-vous ? »
Et elle a dit que j'étais... Oh, je ne puis le répéter, que j'étais tout ce qu'il y a de gentil.
Alors oui, elle est raisonnable.
Et elle a si bonne opinion de votre goût.
Ah, vraiment?
Savez-vous, Frank, je crois réellement qu'elle a été éprise de vous d'une façon tranquille, secrète, timide.
Oh, Maud, quelle drôle d'idée vous avez parfois! « Dites donc, puisque nous dînons en ville, nous avons juste le temps de nous habiller. »